BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. François Sorel.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous sur BFM Business et bienvenue dans ce salon VivaTech. On va vous faire vivre encore une fois ce grand rendez-vous dédié à l'innovation au cœur de Paris ici. C'est jusqu'à samedi et on y est ce soir bien évidemment jusqu'à 21h avec des invités prestigieux. Tout à l'heure je recevrai un porte-parole de chez OpenAI. Il est francophone et il a un poste très important, il s'occupe de ChatGPT et de Codex qui est un peu la coqueluche des programmeurs. Il sera avec nous ce soir. On parlera aussi d'Airbus, comment l'intelligence artificielle infuse dans cette énorme boîte dédiée à l'aviation, vous aurez quelques éléments de réponse. Et puis, autre invité exceptionnel tout à l'heure, c'est Octave Cabat, qui est le créateur d'OVH Cloud. Il en est aussi le patron. Il sera avec nous parler de son prochain projet. C'est d'apporter une couche IA à son cloud. Et vous allez voir, c'est passionnant. Ça va arriver dans quelques mois de cela. Il va tout nous raconter. Merci d'être là. C'est parti. C'est Tech & Co, la quotidienne depuis VivaTech.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.
Et voilà, donc ce Tech & Co, la quotidienne, deuxième jour en ce jeudi. Toujours très heureux d'être ici au cœur de ce salon dont c'est le 10e anniversaire, je vous le rappelle. Et on va commencer par un petit débrief. Vous le savez, Tech & Co, la quotidienne, c'est avant tout nos experts qui commentent l'actualité avec ce soir depuis VivaTech. Jérôme Colombin. Salut Jérôme.
Salut François, bonsoir à tous.
Voilà, Jérôme Colombin, auteur de nombreux podcasts avec Monde Numérique, bien sûr, tu es là pour ça aussi.
Hein, voilà, ne m'en parle pas.
Voilà, pour...
Je cours de tous les côtés.
Exactement, avec forcément pas mal d'entretiens et de rendez-vous intéressants à suivre, donc Monde Numérique. À tes côtés, c'est Luc Julia, dont c'est le grand retour dans Tech & Co, la quotidienne. Salut Luc.
Bonsoir François.
Ça fait plaisir de te voir mon cher Luc.
Bah, moi aussi, je suis
voilà. Luc qui partage sa vie, vous le savez, entre la Californie et Paris. L'un des contributeurs de Siri, tu as été le directeur de chez Siri, chez Apple. Tu as travaillé chez Samsung, chez Renault. On peut dire qu'en termes d'intelligence artificielle, on ne te la raconte pas quand même. On peut dire ça comme ça. Merci d'être là. Et puis c'est Christophe Ollet qui est là aussi. Salut Christophe.
Bonsoir François. Bonsoir à tous.
Christophe qui est senior advisor chez Seventoo et ancien président de Microsoft France et Asie du Sud. C'était il y a quelques années, Jérôme. On se souvient quand Christophe était à la tête de Microsoft. On lui courait après derrière notre
micro. Exactement. On faisait antichambre. Oui. Pour avoir une interview à Christophe,
dis non, pas vous. Bon, maintenant, tu vois, ça a un peu changé.
Oui, voilà. il faut se préparer à ça, effectivement.
Il n'a pas perdu.
Il faut apprendre à vivre sans le logo.
Il faut apprendre à vivre sans Bill Gates. D'ailleurs, c'est un...
Le titre de mon ouvrage, Le jour où j'ai quitté Bill Gates. Tu as bien raison de le rappeler.
Exactement. Merci en tous les cas d'être là tous les trois. C'est intéressant de se retrouver ici à VivaTech. Rendez-vous un peu particulier, 10e anniversaire déjà de VivaTech. Vu le monde, la grandeur de ce salon, ça a l'air d'être un succès, j'ai l'impression. Et j'aimerais avoir votre avis tous les trois. Luc, qu'est-ce que t'en penses?
C'est CIS, hein.
C'est le CIS,
c'est officiel, c'est presque aussi gros, il y a beaucoup de monde. C'est sur 3 étages, on est paumé, donc c'est CIS.
Bon, CIS c'est plus grand quand même, parce qu'il y a plusieurs sites. Hein, voilà. Mais... qu'est-ce que tu as l'habitude de faire ces salons, bien évidemment. C'est pas ton premier VivaTech, c'est pas ton premier CIS, loin de là. Comment tu sens l'ambiance?
L'ambiance est bonne. Et je veux dire, on a passé déjà entre l'année dernière et cette année, on est passé du mythe, on va dire, tout ce qu'on nous a raconté avant, à des choses qu'on applique. On
a commencé à l'IA, pas mal, tu veux dire?
En l'IA en particulier, parce que de toute façon, on parle que d'IA. Hein.
Ouais.
Tout le monde parle d'IA, tout est IA. Donc... mais on commence à avoir des applications vraiment intéressantes. C'est-à-dire que l'année dernière, déjà, c'était pas mal. Là, cette année, si tu vois dans les différents stands, c'est des IA hyper spécifiques, hyper appliquées et qui font des trucs intéressants. Et donc, c'est pour ça que tu peux venir faire ton marché.
Ouais. Tiens, on parlera tout à l'heure d'agent IA, puisque j'aurai le plaisir de recevoir Thibaut Sautio. Je ne sais pas si tu le connais. C'est le responsable produit et plateforme chez OpenAI.
Il a de plus en plus de pouvoir.
Exactement, il sera sur le plateau Tech & Co juste après vous et on évoquera avec lui le fameux codex. Vous savez, voilà.
Très bien, je l'utilise depuis 3 semaines là, que c'est sorti, le nouveau, le 5.5.
Ouais.
C'est en train de rattraper Claude Code. Donc c'est pas mal. Donc tu pourras le féliciter de ma part.
Eh bien écoute, je pense que tu le croiseras tout à l'heure, tu pourras le féliciter directement. Jérôme, ton point de vue sur ce VivaTech 10e édition. Je me souviens, on était encore tous jeunes, les deux.
On était bébés.
On était des petits bébés. Et il y a 10 ans, on se disait, mais où est-ce qu'on va aller? Parce que c'est vrai qu'il y a 10 ans, VivaTech, c'était pas aussi grand, encore un peu expérimental. Et voilà, 10 ans après, on a l'impression que cette édition, c'est un succès.
Franchement, quand on voit le chemin parcouru, oui, c'est impressionnant. Maintenant, c'est une évidence, ils ont gagné leur pari. Moi, je dirais que pour résumer, si tu veux, si on juge la qualité, l'importance d'un salon à la température, au nombre de gens qui sont là, et si c'est inversement proportionnel à la disponibilité des communications, eh ben, c'est réussi. Parce qu'on a zéro réseau. Il y a trop de monde, en fait. Ça ne marche pas. Il n'y a rien qui passe. Donc, toutes les démos foires, on ne peut pas s'envoyer de messages. C'est une catastrophe. Mais en revanche, il y a une effervescence incroyable sur les salons. Je suis d'accord avec Luc, ça ressemble au CES. Ils se battent sur les chiffres. Ils annoncent des chiffres de fréquentation, 180 000, 200 000 visiteurs peut-être cette année. C'est les chiffres du CES.
C'est même plus que le CES.
Ouais. Et s'il n'y en a pas un des deux qui ment, je ne sais pas.
Ouais.
On se pose la question depuis l'an dernier.
Mais c'est vrai, c'est une vraie polémique, ça. Parce que depuis un moment, la communication de VivaTech dit que ils battent régulièrement la fréquentation du CES. Moi perso, j'ai du mal à y croire, vraiment, parce que c'est un salon, le CES, d'envergure internationale, qui est beaucoup plus étalé. Hein. Je sais pas, tu connais Christophe, hein, le CES.
Bien sûr, bien sûr.
Voilà. Et je me dis, bon voilà. Après, il faut pas oublier que le dernier jour d'ici, c'est ouvert au grand public.
Absolument.
Et je pense qu'ils doivent remplir, si tu veux, les quotas avec beaucoup d'étudiants qui viennent. Il y a beaucoup d'étudiants qui viennent ici aussi. Et c'est bien.
Et
ça, c'est
mieux.
Très, très bien.
C'est une super cible.
Et attention, on n'est pas en train de cracher dans la soupe. Je veux dire, nous, on est très heureux d'avoir cet événement ici qui permet des rencontres avant tout. Du business, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a du business qui se fait ici.
Non, mais en tout cas, comme disait Luc, c'est un CES de la maturité, très clairement. C'est pas des petits gadgets youpla-boom comme ça sur des coins de stand. C'est des vraies choses sérieuses, des start-up dans des domaines hyper sérieux, des trucs industriels. Moi, j'ai fait des super interviews avec des innovations, des sujets qui parfois ont du mal à remonter à la surface parce que c'est pas très grand public, mais ça fait le vrai business, c'est génial. Ouais.
C'est-à-dire que moi, je suis d'accord, je pense que c'est un très grand succès. Et en plus, je suis d'accord avec toi, je pense que CES paraît un peu plus de monde, en tout cas en B2B. Il y a peut-être ce dernier jour qui crée un effet chiffre.
Qui multiplie la présence.
Globalement, c'est quand même un pari réussi. Ce qui est assez peut-être différent d'autres salons, c'est ces très grands stands de grandes boîtes corporate qui reviennent d'une année après l'autre. Donc ça donne quand même une stabilité entre guillemets au business model, et ce pari il l'a formidablement réussi Maurice Lévy avec Publicis et les Échos, parce que ça donne et ça grandit d'année en année. Et cette année on a en plus à l'étage au-dessus les pays, avec un stand incroyablement grand de l'Allemagne qui nous fait peut-être espérer un rapprochement pour tous les enjeux de souveraineté.
Quand on suit l'actualité, c'est pas gagné quand même, hein.
Mais bon, il y a eu des déclarations hier qui étaient peut-être un peu plus encourageantes, mais ce qui est intéressant aussi, je pense qu'il y a aussi une résonance avec l'IA, au sens où toute la dynamique agentique pousse vers le développement de solutions verticales, de solutions métiers. Or, c'est vraiment ce que veulent voir les stands et les sociétés. Donc, ça tombe bien, si je puis dire, et ça rentre bien en résonance avec l'IA, et ça crée un phénomène de succès. Ceci dit, bon, c'est vrai qu'on est un peu étourdi par le nombre de solutions, on a du mal à les différencier les unes par rapport aux autres, et on voit tout le challenge que moi je vois en tant qu'investisseur pour les startups d'arriver à se différencier au-delà de dire je suis AI-powered solution pour ceci ou cela.
Et quand même Jeff Bezos.
Ouais.
Et pas de visio, Jeff Bezos était ici même. Jeff Bezos, c'est
Les
personnalités les plus puissantes du monde, on est d'accord quand même.
Moi, je ne m'y attendais pas. Je voyais plutôt un Sam Altman ou un Dario Amodei, en me disant qu'en même temps, ça n'aurait pas été forcément une bonne idée.
Ouais,
parce qu'ils sentent un peu le souffle en ce moment, ces gens-là.
Vu la qualité de ces derniers jours, en plus.
Mais bon, ça aurait eu du clinquant.
Ouais, ça aurait dû du
clinquant. Jeff Bezos.
Sam Altman était au G7.
Tout à fait.
Et à Versailles aussi, je pense.
À Versailles.
Avec Amodei.
Et Jeff Bezos aussi, je pense.
Et surtout le message de Jeff Bezos. Le message de Jeff Bezos qui est hyper positif.
Oui.
Ça fait des mois qu'on se tape des prédictions terribles sur la fin du monde à cause de l'intelligence artificielle, de Dario Amodei qui fait peur à la Terre entière, de Sam Altman aussi. Et puis, lui, il arrive et dit, mais vous savez, moi, je suis pas du tout d'accord avec ces prédictions. L'IA ne va pas tuer tous les métiers. Au contraire, on va manquer de main-d'œuvre. Mais c'est extraordinaire comme message. Alors bon, ils sont très forts pour la com. Ils s'est peut-être dit, tiens, je vais jouer sur un autre tableau.
Bon, mais peut-être que la justesse est entre les deux.
Certainement, voilà. Mais c'est déjà beaucoup.
Jeff Bezos, Luc, ça t'inspire ? Est-ce que tu suis un peu le parcours de ce gars-là ? Bon, il a eu un problème de fusée, là, ces derniers jours.
Oui, il y a un qui a pété. Qui n'a pas de problème de fusée ? Qui n'en a pas eu dans sa carrière de lanceur de fusée ?
C'est vrai.
Enfin,
c'est vrai.
Soyons honnêtes.
Mais là, t'as vu, c'était quand même assez spectaculaire. Hein. Son New Glenn qui a explosé, mais avant de décoller, quoi. Enfin, bref.
Ouais. Bah, moi, tu sais, je le suis depuis le départ, parce qu'il a commencé il y a très longtemps, dans les années 90... dans la vallée.
Et c'était pas gagné au départ. Hein.
C'était pas gagné du tout, non.
Pendant Amazon, pendant des années, a perdu de l'argent.
Hein. Voilà, pendant des années, c'était un déficit.
Ouais.
Et puis, bon, ça a explosé tout d'un coup, hein, vraiment avec l'explosion d'Internet au début des années 2005-2010, quoi. Donc ça a mis du temps, ça a mis beaucoup de temps. Son message, effectivement, moi je préfère ce message-là à celui d'Altman ou à celui des autres, hein, et je parle même de Musk. Ça me va. Et si tu veux, c'est pas loin de ce que moi je raconte depuis très longtemps. Donc,
mais c'est clair, c'est pour ça que j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Et il y a même Yann Lequin, que tu connais bien, qui est dans cette même mouvance. C'est-à-dire que lui, attention, ne paniquons pas, ça va bien se passer. Ne pas écouter ces discours alarmistes, anxiogènes, que donnent certaines personnalités de l'intelligence artificielle. Peut-être que ça sera le juste milieu finalement. Parce qu'effectivement, on sent que, et on le dit ici, l'intelligence artificielle va détruire des emplois. Ça, c'est clair.
Oui, mais il y avait encore ce matin la ministre du Numérique qui expliquait que oui, ça va détruire ou réorganiser. Exactement, ou désorganiser, bousculer, impacter des métiers. Mais il ne faut pas s'attendre forcément à des charrettes.
La bonne nouvelle, c'est qu'on le sait. Donc déjà, si on comprend le problème...
Ouais.
Notre plus gros problème, ça serait de ne pas s'éduquer sur ces trucs-là. Et comme on va s'éduquer, comme on comprend comment ça marche et qu'on comprend ce que ça peut potentiellement faire, on va se préparer. Et en se préparant, en sachant qu'il y a des tâches qui vont disparaître, il y a des tâches qui vont apparaître, il y a des métiers qui vont changer, on se prépare à ça et ça va bien se passer.
Non, je pense que là, tu as raison, c'est que l'enjeu majeur, c'est l'éducation et c'est aussi quand même le sujet de la préparation des jeunes à l'emploi dans le cadre d'entreprises qui veulent des salariés augmentés et donc s'assurer que le système éducatif leur permet de le faire ou que l'apprentissage ou d'autres... Donc là, il y a quand même un vrai sujet. Mais moi, comme vous, je ne crois pas à la Jobpocalypse. Je ne suis pas naïf non plus. Je pense que c'est un énorme pouvoir transformateur. Mais la chose dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que bon, en fait, c'est pas parce qu'on est capable d'automatiser la tâche de 20% de ce que font 5 personnes qu'on peut facilement supprimer un job. Parce qu'il faut avoir une approche vraiment de réflexion, de transformation, plus holistique. Et ça va prendre du temps. Et ce temps-là, il va voir se reconfigurer les métiers. Et je pense qu'il faut avoir une approche positive par rapport à ça.
Oui, mais malgré tout, moi j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec un patron d'une grande industrie dans l'automobile, je ne vais pas rentrer dans le détail, qui disait malgré tout qu'il se fait du souci pour ses ingénieurs.
Ah oui.
Parce que ces ingénieurs-là qui ont fait des années d'études et qui aujourd'hui doivent comparer tel document technique par rapport à un autre document technique, quelque chose qui est fastidieux à faire, chronophage et aujourd'hui réalisable que par des humains, l'IA sait faire ça maintenant. Il me dit, mais qu'est-ce que je vais en faire, mes ingénieurs? Et j'en ai pas que quelques milliers, j'en ai des dizaines de milliers. Et il se pose vraiment la question. Et il est inquiet quand même parce qu'il se dit, je ne sais pas jusqu'où va aller l'intelligence artificielle dans le bouleversement en fait, du fonctionnement de ma société.
Ça, c'est l'enjeu pour les entreprises.
Non, mais je veux dire,
c'est vraiment l'enjeu de demain.
Exactement. Mais je pense qu'il faut que les entreprises prennent très tôt ce problème. Mais
on ne peut pas rester passif par rapport à ça. Il faut le dompter, il faut l'utiliser, il faut en comprendre les conséquences. On ne peut pas juste être négatif et dire je ne fais pas parce que je vais perdre toute compétitivité. Donc il y a une course avec une certaine incertitude. C'est un peu flippant, mais il faut y aller.
Alors voilà ce qu'on pouvait dire sur cette première ambiance de Vivatech. Jérôme, je ne sais pas toi, mais je m'attendais à avoir plus de robots. Tu vois, tout le monde nous dit oui, ça y est, les robots, on commence à avoir des trucs sympas, etc., etc. Bon, j'en vois qui tapent contre des murs. J'ai l'impression qu'ils sont en fin de soirée.
Il y en a qui sont
à la Chunga.
On dirait qu'ils veulent s'échapper.
Oui, ou alors, tu sais, ils ont un peu trop bu, ils savent pas trop où ils vont. Enfin, j'ai l'impression que.
Je pense qu'il y a deux explications. La première.
Est-ce qu'on nous raconte pas un peu n'importe quoi sur ces robots?
La première, elle est basico-basique. Pour exposer des robots, il faut de la place. Pour de la place, il faut des stands plus grands, donc plus chers. C'est bête, mais voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Hein.
Ah, d'accord.
C'est une raison okay. très terre-à-terre, mais réelle. Deuxième, sachant que les robots, ils ont été beaucoup exposés dans d'autres salons, est-ce qu'on a besoin de voir encore 50 000 robots qui font comme ça, avec un mec derrière avec les télécommandes qui fait en sorte qu'ils ne tombent pas sur le parquet?
On t'a vu avec la télécommande.
Voilà. Et la deuxième raison, c'est, là je comprends ce que tu veux dire, c'est que la promesse n'est pas encore là. Quoi. Les machines fonctionnent, mais elles n'ont pas d'intelligence à mettre dedans. Et...
On n'a pas de use case, surtout on n'a pas de cas d'usage, on ne sait pas à quoi ça va servir. Donc ils ne vont pas te sortir la vaisselle du lave-vaisselle, on s'en fout. D'accord, donc ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est les robots industriels.
Oui.
Ils sont de plus en plus intéressants parce que, humanoïdes ou pas d'ailleurs, hein, c'est pas forcé de se focusser sur le
humanoïde. Ça peut être des bras motorisés,
voilà,
des choses
des bras
comme
motorisés
ça.
Qui sont sure. magnifiques, extraordinaires, qui font des trucs fantastiques dans les usines. Bah, ça marche. On voit par exemple, je sais pas s'ils sont là ici, mais Hyundai par exemple, ils sont très spécialisés dans le machin et ils ont racheté des boîtes de robotique et ils font super bien dans leurs usines avec ça.
Bah, Hyundai a racheté Boston
oui,
Robotics.
Boston Dynamics. Ouais.
C'est Dynamics. Ça, hein.
Boston
oui, Dynamics.
Ouais. Mais c'est super. Donc, il y a du B2B là-dedans. Il y a du business pour l'industrie. Les robots humanoïdes à la truc de Musk là, d'accord. Optimus. Optimus. Je suis désolé, mais bon, ça sert à rien.
Ah ouais, mais faut pas jeter le.
Ouais, il faut pas
jeter de la fusée.
Moi, je jette.
Faut pas jeter Optimus avec l'eau du bain.
Tout ce qui est Musk, non. Je jette.
Oh.
Oh.
Luc, franchement,
non. Un peu de nuance.
Tu te rends compte qu'il est.
Tu me connais, oui.
Il est quoi?
Tu peux pas parler comme ça d'un trilliardaire déjà.
Voilà, c'est un trilliardaire quand même. Enfin, sur le papier. Mais
Oui, mais t'as raison de le préciser. Expliquons aux gens, c'est sur le papier.
Oui, aujourd'hui.
Arrêtez de dire.
Il peut pas sortir 1000 milliards comme ça du distributeur de banque. Hein. Ça marche pas comme
voilà.
ça. Hein.
Non, il n'a pas la liquidité encore. Et s'il décidait de sortir, tout s'effondrerait. Donc,
voilà.
Effectivement. Et globalement, il y a quand même un vrai sujet aujourd'hui autour de ces valorisations. Il y a quand même un phénomène de bulle, d'ailleurs, qui est aussi un nuage sur cette industrie. Notamment avec un truc qui émerge quand même, que je sens. Alors, c'est peut-être un peu moins visible au travers des stands, mais ouais. qui est le fameux coup des tokens. On commence à voir en se disant, oui, non, mais attends, est-ce qu'on va être capable de développer des business models rentables? Ou pas, est-ce que le coût du token va alors certains disent oui c'est juste temporaire donc très bien, mais ça veut dire que si ça s'écroule demain, comment on va arriver à valoriser tout ça? Donc il y a aussi je pense que globalement il y a une vraie question sur la chaîne de valeur entre on voit bien la valeur, c'est devenu une industrie aujourd'hui, il y a une vraie valeur pour les data centers, pour l'infrastructure, puis ensuite il y a les LLM, puis les acteurs logiciels, puis les acteurs du conseil, puis la robotique, et en fait toutes ces chaînes de valeur elles vont être redistribuées. Donc les inquiétudes qu'il y a sur l'emploi, je veux dire tous les acteurs logiciels, conseils se disent mais attends, demain est-ce que je vais arriver encore à vendre du SaaS, ou est-ce que finalement les clients vont dire bon attends ton CRM c'est sympa, mais moi un OpenAI et puis un agent je fais la même chose. Donc on va peut-être passer par une étape un peu de profusion un peu chaotique d'agents de nous, et il va y avoir une vraie restructuration de la chaîne de valeur, et je crois que ça va être passionnant à vivre dans les 10 années qui viennent.
Jérôme Colomba doit nous quitter, les amis. Merci d'être passé, Jérôme.
Je vous laisse parler de souveraineté, je suis désolé, je dois filer.
Non, mais écoute, bon podcast, on te retrouve dans Monde Numérique, et merci d'être passé nous voir.
Merci,
à très vite, camarade. Luc, c'est vrai, le coût de l'IA, oui, pardon.
Oui, pour rebondir, pour parler du coût de l'IA, justement, pour parler exactement de cette chaîne de valeur, c'est absolument extraordinaire aujourd'hui de voir que des boîtes comme OpenAI perdent 7 milliards par an.
Ah oui.
Sur 7 milliards, c'est pas une boîte, tu perds pas 7 milliards, c'est ridicule. Donc, définitivement, il y a quelque chose qui va pas. Par contre, on voit que depuis deux mois, ils font ce reshuffling, là, je sais plus comment dire en français. Donc, tout se réorganise, effectivement, parce que on voit qu'ils essayent de devenir eux-mêmes boîte de service.
Oui, ils essaient de développer un modèle à la Palantir,
bah, oui.
tu vois.
Ben, ils vont voir les boîtes maintenant pour dire je vais adapter mes modèles à vos besoins,
oui.
au lieu de dire regardez j'ai ça, faites ce que vous voulez avec, oui. parce que ça marche pas. On se rend compte que, et c'est ce que je dis depuis des années et tu le sais bien, que c'est la spécialisation qui est intéressante, et donc c'est ce qu'on voit maintenant arriver avec ces grosses boîtes. De plus en plus ils se transforment en boîtes de conseil,
oui.
et donc du coup ça veut dire quoi? Ça veut dire que les boîtes de conseil, eh ben, eux aussi, ils sont embêtés. Donc, toute cette chaîne-là va être effectivement redistribuée dans les jours et mois qui viennent.
Encore une fois, j'ai pu rencontrer un utilisateur féru de Claude et qui expliquait que, en fait, maintenant, alors il me disait ça un peu de manière anonyme, que Claude pouvait copier des logiciels.
Oui.
Et au lieu de payer des licences de logiciels qui coûtent une fortune, oui, tu demandes à Claude et tu promptes à Claude, tu lui dis voilà, j'aimerais tel logiciel qui fait ça, ça, ça et ça. Eh ben, il va le faire.
Et tu vois la bagarre qui est en ce moment entre OpenAI, tu citais tout à l'heure Codex, et Claude, il se tire la bourre et les autres derrière. Bientôt, tu vas pouvoir montrer des écrans en décrivant
bien sûr
de façon vocale une logique.
Oui. Fais-moi
et derrière,
logiciel,
il va te générer le logiciel. Je voyais tout à l'heure chez Siemens sur l'industrie, sur les robots, il disait finalement on décrit un process industriel et on va carrément développer un jumeau numérique pour pouvoir développer son propre robot. Quoi. C'est, et tu te dis, bon, ben, finalement, où est le logiciel là-dedans ?
Et tu sais, aujourd'hui, un des métiers qui se développe en Chine, c'est entraîneur de robots. Ouais. Où tu fais des gestes et machin de ça pour que les robots apprennent.
En Chine et en Inde d'ailleurs aussi. Oui, donc parce que la main d'œuvre elle est pas chère.
Toute la main d'œuvre quand c'est pas cher. Donc ça c'est sûr. Par contre, je veux revenir rapidement sur Claude et sur Codex parce que moi je m'amuse, j'ai que ça à faire donc je m'amuse à programmer.
Et t'as une certaine compétence.
Je suis un programmeur donc ça tombe bien. Et justement, ce que je vois,
et tu t'éclates avec.
Bah oui, je m'éclate avec parce que ce qui est rigolo, c'est qu'effectivement c'est fantastique. C'est-à-dire que je gagne un temps fou pour plein de petits trucs que je faisais un peu machinalement.
Explique-nous comment tu t'en sers et à quoi ça sert, Codex.
Ce qui est super bien, c'est que tu peux décrire effectivement en langage naturel exactement ce que tu veux faire et les fonctions vont être générées automatiquement. Et donc ça va te générer des machins. Et ce qu'il y a, c'est que moi je relis évidemment le code, ce que certains ne font pas. Parce que le code, il peut marcher ou pas marcher. Quand il marche à 70% du temps, c'est super. Quand il marche pas, bon, il faut que tu sois un peu compétent pour le faire marcher. Mais même quand il marche, c'est bien quand même d'aller le revoir bien un sûr peu pour aller l'optimiser. Parce qu'il te crache quand même des trucs un peu bateau, on va dire. Et j'aime bien dire tout le temps moyen. C'est-à-dire que c'est un programmeur moyen, ce qui est bien, parce que ça suffit, il fait des trucs. Mais moi, ce que j'aime bien, évidemment, c'est tu vois, aller chercher la petite bête, optimiser le truc. Mais c'est vraiment des super outils. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je compare Claude avec Codex, c'est super intéressant de voir comment il se tire la bourre, justement.
Oui,
parce que c'est, il y a vraiment quelque chose où on voit des progrès.
Jeff Bezos disait hier, lorsqu'il était en keynote ici à Vivatech, que en fait, il y avait un champ des possibles qui s'ouvre pour tout cette jeune génération de créer des business et de faire de l'argent avec de bonnes idées. Et je pense que Codex, c'est sans doute, comment dire, l'outil qui peut vous aider à trouver la bonne idée et même si vous n'êtes pas codeur, à arriver à fabriquer votre idée. Voilà.
Alors après, derrière, si tu veux, c'est ce que je disais tout à l'heure, évidemment, tu vas encourager une profusion de nouveaux logiciels, de choses. Tu dis, bon, finalement, pourquoi je vais utiliser un CRM ? Je vais développer un truc rapido, ça marche tellement bien. Mais après, évidemment, ça risque d'être un chaos assez conséquent dans les grandes entreprises. Parce que ça, c'est super pour l'auto-entrepreneur ou la petite boîte.
Non, mais bien sûr.
Mais dans les grandes boîtes, les gens... En fait, il n'est pas impossible d'ailleurs qu'on vous opérer entre la rapidité de mise en œuvre et de mise en action de ces outils-là et la lourdeur des grosses boîtes dues aux problématiques de gouvernance, de données, de cyber, de souveraineté, tous ces sujets-là qui font que ça peut ralentir un peu. Mais c'est vrai qu'il faut aussi... On peut aussi avoir de l'autre côté un côté un peu artisanal de ces développements et ne pas avoir forcément le professionnalisme de passage à l'échelle. Donc voilà, tout ça reste très incertain et inconnu.
Moi, ce que je trouve incroyable, c'est que aujourd'hui, quelqu'un qui a une super idée peut développer une appli mobile tout seul et sans aucune connaissance informatique.
Et tu peux faire ton site web super facilement.
Tu peux faire ton site web
super joli, super en une journée.
Ajouter des briques technologiques dedans, etc., sans rien y comprendre.
Mais pour rebondir sur ce que tu viens de dire qui est super important, c'est que les grosses boîtes peuvent être déplacées effectivement, mais c'était déjà un peu le cas avec ce qu'on a appelé l'agilité dans le développement du software. Les grosses boîtes ont mis beaucoup de temps à adopter l'agilité et à adopter la méthodologie agile quand c'est la façon de développer du software. Mais il y a plein de boîtes qui n'ont toujours pas compris en fait et qui font toujours ce qu'on appelle du waterfall, c'est-à-dire qu'on fait des gros plans et puis les plans ils servent à rien parce qu'ils sont sur 5 ans et au bout de 5 ans c'est tout obsolète.
C'est clair. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Franchement,
François,
ce Vivatech, très sympa. Vous allez encore, j'imagine, arpenter les allées.
Arpenter, c'est le mot.
Voilà. Et je vous rappelle que, évidemment, cette émission a été préenregistrée. Il reste encore quelques heures pour Christophe et Luc d'aller faire un petit tour. En tous les cas, voilà, bonne ambiance, beaucoup de monde. Et puis, je vous le rappelle, chose importante. Vous êtes intéressé par la tech, vous êtes dans la région parisienne. N'hésitez pas à venir samedi, parce que samedi, c'est ouvert à tout le monde. Et ça peut donner des idées. Ça peut donner des idées. Vous ne savez pas quoi faire. Vous êtes jeune. Voilà. Vous cherchez. Ben ça peut vous inspirer. Et croyez-moi, des idées, vous pouvez en avoir. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci
à Luc, Julia. Et merci à Christophe Holnet. Et vous restez avec nous. On va rester, mais alors là, véritablement, dans le cœur du sujet de l'IA, avec Thibaut Sautio qui me rejoint, qui est responsable produit et plateforme chez OpenAI. Il est à Paris, évidemment, il sera dans Tech & Co. A tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.
Voilà le retour de Tech & Co, la quotidienne, toujours à Vivatech, et c'est l'occasion aussi de belles rencontres avec celle que je vais vous faire vivre tout de suite. Thibaut Sautio est avec nous. Bonsoir Thibaut.
Enchanté.
Voilà, il faut bien parler dans le micro pour
qu'on entende bien. Je l'ai bien là, je l'ai bien.
Merci d'être là. Vous êtes responsable produit et plateforme chez OpenAI. Alors OpenAI, bien évidemment, on ne présente plus ChatGPT, etc., etc. Vous avez un profil ingénieur produit qui monte très vite chez OpenAI. Vous êtes vraiment la figure montante. Vous êtes passé par Google, DeepMind, et vous avez pris la tête de Codex, qui est cet agent IA pour développeurs. Et vous avez même élargi votre rôle à ChatGPT et au produit cœur d'OpenAI, ceux que les gens utilisent. On n'est pas loin du milliard, je crois, d'ailleurs, d'utilisateurs.
On y est presque.
Pas loin.
Hebdomadaire, oui. Pas loin. On le fêtera quand il en y arrive.
Ah, oui. Pas mal. Vous êtes ici à Vivatech parce que vous avez expliqué ce que vous avez fait. Je crois que vous avez fait des keynotes, hein, ici même.
Oui, on a eu une petite discussion avec Peter, qui a fait OpenClaw.
Et vous êtes belge.
Je suis belge. De Bruxelles. D'origine, oui. Et voilà. Maintenant, je vis aux États-Unis, ça fait 2 ans, à San Francisco.
Ok.
Et je reviens occasionnellement en Europe, notamment en France.
Très bien. Ça va, la vie est belle à San Francisco?
La vie est très belle. En général, on a besoin d'un petit pull en soirée, donc c'est pour ça.
Là, c'est je pas la
non plus. Là, ici, en ce moment, il n'y en a pas vraiment besoin.
Pas besoin de
pull. C'est quoi? Il fait 30 degrés. C'est magnifique. Il fait plus beau ici qu'à San Francisco, c'est sûr.
C'est clair. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre job, en fait, chez OpenAI?
Oui, bien sûr. Donc, je suis responsable de toute la partie produit, Codex, ChatGPT, aussi la partie API, entreprise. Et donc, c'est une équipe de plus de 500 personnes. On développe des produits de pointe et on travaille de manière très, très proche avec la recherche pour faire en sorte que les produits puissent bénéficier de toutes les avancées au niveau des modèles. Donc, à chaque fois qu'on a un nouveau modèle, on doit être capable de, d'exprimer cette capacité dans le produit pour faire en sorte que ce soit utile à tous nos utilisateurs. Et ça, c'est vraiment un travail de produit, c'est un travail d'infrastructure, c'est un travail pour rendre ces agents et ces modèles efficaces en production, et puis aussi pour simplifier ces concepts. Les modèles, c'est quelque chose d'assez compliqué à la base, et puis au final, dans ChatGPT, ça devient super simple.
C'est-à-dire que quand je fais une requête à ChatGPT, il y a un peu de Thibaut Sautio caché quelque part.
Quelque part, il y a un petit peu de mon code, mais aussi surtout le code de toutes les équipes.
Et bien sûr.
Et récemment, plein de code qui a été produit par Codex, qui était à la base notre agent de code, qui écrit maintenant la majorité du code chez OpenAI.
ChatGPT, ça fait maintenant quelques années que c'est rentré dans les mœurs. On le voit, on le disait, bientôt 1 milliard d'utilisateurs. Qu'est-ce qui vous impressionne le plus comme progression dans ChatGPT depuis ces dernières années par rapport à la première version? Qu'est-ce qui vous a dit ou fait dire « Waouh ». C'est quand même dingue, je vis dans une boîte de fous.
C'est quasi tous les jours que je me dis ça. C'est quand je vois des avancées en sciences, en mathématiques, des nouvelles preuves qui sortent quasi tous les jours, toutes les semaines. Et maintenant, on voit ça dans toutes les sciences, dans chemistry,
la chimie. La chimie, bien sûr.
Voilà.
La santé aussi.
La santé. Et on voit des progrès de plus en plus phénoménaux et de plus en plus rapides au niveau de la science. Et ça, c'est quelque chose qui vraiment... C'est incroyable de voir ce progrès. C'est vraiment au bénéfice de l'humanité. Après, à côté de ça, on voit aussi plein d'avancées au niveau de le langage naturel, pouvoir juste parler en voix à ChatGPT. Donc on a beaucoup d'utilisateurs maintenant qui font juste... ils parlent juste comme on est en train d'avoir une discussion maintenant. C'est juste une discussion naturelle.
On a le ratio ou pas des gens qui parlent à ChatGPT qui n'écrivent plus à ChatGPT?
C'est en train de monter. J'ai pas le ratio exact.
Okay.
C'est pas la majorité.
D'accord.
Mais c'est en train de monter. Je pense qu'à un moment donné, ça deviendra la majorité.
Et c'est le device aussi, non, qui fera que on parlera peut-être plus à ChatGPT?
On verra ce que le device fait.
Quand je dis device, c'est pas le device que vous êtes peut-être en train de préparer.
Mm-hmm.
Sauf si vous voulez nous en dire quelque chose avec Jonathan Hyde.
Il y a quelque chose de très intéressant d'avoir une présence physique dans le monde et pas juste être sur un téléphone. Ça, c'est vraiment le futur.
C'est-à-dire que vous imaginez quoi? Une petite enceinte, on parle de pendentifs, enfin de produits qui seraient un peu le témoin de notre vie.
Ouais, pour le moment, on peut avoir plein d'idées, ça peut rester très créatif, et puis on révélera quand c'est le moment.
C'est bientôt le moment ou pas? La marmite bouillonne.
La marmite bouillonne, on est en train de travailler activement dessus.
Juste une chose, on a l'impression que OpenAI est sur tous les fronts. Mm-hmm. Vous êtes sur le hardware, Jonathan Ive. Vous voulez sortir, enfin il y a eu ces rumeurs aussi d'une espèce de smartphone AI qui sera un autre projet d'OpenAI. Il y a tous ces nouveaux modèles que vous sortez. On en est à 5.5, mais finalement on sait que ça s'arrête jamais. Il n'y a pas trop de comment dirais-je, sujets qui sont pris par OpenAI. À votre avis,
on parlait justement ici de la cadence des modèles. Ça, c'est quelque chose d'assez incroyable à la base.
Et on a l'impression que c'est exponentiel en plus.
Tous les ans et demi. Maintenant, c'est toutes les 6 semaines, plus ou moins. Donc, le dernier modèle GPT 5.5, ça fait quoi? Il y a peut-être 5 semaines maintenant. Et donc, on peut voir que peut-être qu'il y aura des autres modèles. C'est sûr qu'on est toujours en train de travailler sur des nouveaux modèles. Et on voit cette accélération du développement. Et l'accélération du développement, c'est principalement dû aussi aux agents qu'on utilise. Et on automatise une grosse partie de notre travail pour être plus efficace à la recherche, à la production, à tout ce qui est de l'infrastructure.
Ouais.
Et ce qui était possible en plusieurs mois, maintenant est possible en quelques jours.
Qu'est-ce que vous vous sentez, j'imagine, avec une énorme responsabilité quand vous voyez qu'il y a quasiment 1 milliard de gens qui se servent de ChatGPT,
bien sûr,
qui aident les gens dans le travail, qui les aident au quotidien pour remplir des documents, etc. C'est une responsabilité folle, non? Est-ce que vous arrivez à la mesurer, cette responsabilité?
C'est un honneur, surtout, de pouvoir aider autant de gens dans le monde à faire que ce soit des petites tâches,
bien sûr, et
chercher une recette pour... le soir, et voilà, on n'a pas d'inspiration, on a envie de faire des pâtes et on ne sait pas très
bien. On va un peu changer.
Voilà, quoi mettre avec ses pâtes. Ben voilà, on demande à ChatGPT, bien sûr. On a envie de planifier ses prochaines vacances, on demande à ChatGPT. Et puis maintenant, on a envie de faire. On a un problème vraiment extrêmement compliqué au boulot. Et là, ben aussi, on va commencer à demander à ChatGPT. On produit des slides, on produit des spreadsheets, on fait des analyses de finances,
des
analyses
plans.
De données, des business plans.
Bien sûr.
Et tout ça, on a vraiment de l'aide qui est très contextuelle et qui est très appropriée en fait à la personne.
L'idée, c'est que vous deveniez indispensable. C'est déjà le cas, non? Est-ce que vous avez des études sur les besoins des gens de ChatGPT?
On a des études sur les besoins. On aide dans quasiment... toutes les questions qu'on peut se poser en tant qu'humain, et aussi beaucoup avec l'éducation. On a beaucoup de gens qui étudient des nouveaux concepts avec ChatGPT. On donne des conseils tous les jours. Et puis c'est une responsabilité énorme. On investit énormément dans tout ce qui est sécurité, safety, alignment. On publie beaucoup de choses à ce niveau-là. Et c'est surtout notre mission, c'est d'être utile. C'est d'être utile pour un maximum de gens, et c'est vraiment être utile au large. Donc ce n'est pas être utile à quelques petites entreprises et vraiment concentrer le pouvoir, c'est être utile à l'humanité entière. Ça, c'est notre objectif.
Parlons finances, parce que c'est un sujet quand même assez délicat. Alors OpenAI lève énormément d'argent, beaucoup d'argent, mais vous en dépensez beaucoup, vous en brûlez beaucoup, parce qu'à chaque fois qu'on fait une requête, évidemment, ça consomme de la puissance de calcul, etc., etc. Et la plupart des requêtes aujourd'hui sont d'un ChatGPT gratuit, en fait, hein, parce que la plupart des gens, l'immense majorité des gens ne sont pas abonnés, ne payent pas à ChatGPT. Est-ce qu'à votre avis, ce que vous faites aujourd'hui est tenable dans la durée, et est-ce que ChatGPT sera toujours gratuit?
On serait étonné à quel point en fait les modèles qui sont derrière ChatGPT sont efficaces. La majorité de nos investissements et de nos fonds, on les réinvestit dans la recherche. La vaste majorité. Et donc, si on regarde en fait l'empreinte au niveau de l'infrastructure qui est nécessaire pour ChatGPT gratuit pour le monde entier, on est capable de faire ça jusque dans 100 ans, on sera toujours là, pas de problème. Et puis maintenant, on travaille aussi à des modèles de tout genre, de plus en plus efficaces, vraiment à la frontière des capacités et aussi du prix qu'on paye. Et ça, c'est quelque chose qui est important aussi pour les entreprises. On a beaucoup de questions récemment sur, on fait des agents, mais est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est utile? Est-ce que je vois le retour sur mon investissement?
Oui, parce qu'on voit que le coût des tokens est en train d'exploser. C'est un vrai problème pour les entreprises. On va y revenir. Votre avis, donc, c'est presque une mission, je dirais, que vous vous donnez de proposer en tout cas un usage simple de ChatGPT toujours gratuit.
Oui, c'est quelque chose qui fait partie vraiment de notre mission, c'est de rendre, de prendre quelque chose qui va être AGI et de rendre ça accessible au plus grand monde possible et de créer vraiment une valeur ajoutée pour le monde entier. Ça fait partie de notre mission.
Alors vous êtes aussi le patron de Codex. Codex qui est, alors là, beaucoup plus spécifique, mais qui peut-être petit à petit va aussi arriver dans le grand public. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est Codex ?
Alors Codex, c'est assez simple. En fait, c'est un agent qui à la base était un agent pour créer du code et pour aider des ingénieurs et des développeurs à être plus efficaces. Après, on a commencé à investir dans des modèles de plus en plus généraux et des techniques très générales où on est capable de gérer plus de contextes, d'utiliser des outils, de travailler sur des fichiers et de travailler sur du très long terme aligné avec des objectifs. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que toutes ces capacités sont utiles aux problèmes de tous les jours. Ce n'est pas spécifique à accélérer le développement de code. Et donc on a en fait cet agent maintenant très général qu'on appelle toujours Codex, mais qu'on va amener à ChatGPT pour que ce soit disponible pour tout le monde.
Donc il sera intégré dans le ChatGPT.
On est en train d'y travailler.
Okay.
On intègre les capacités de Codex dans ChatGPT.
Et qu'est-ce que ça veut dire en fait ? À quel moment je vais réveiller Codex quand je lui poserai une question dans le ChatGPT ?
Tout le monde peut déjà installer Codex. La Codex app, elle est installable sur macOS, sur Windows. Elle vient et elle marche avec le plan ChatGPT, même sur le plan gratuit. Donc tout le monde peut utiliser Codex.
D'accord.
Mais ça va devenir plus simple. Tout le monde, quasi tout le monde, a l'application ChatGPT sur son téléphone, mais n'a pas Codex. Bientôt, on aura la même capacité d'un agent sur l'application mobile, sur le web, sur le Mac, sur Windows.
Pour tous ceux qui n'y connaissent rien, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'un usage relativement grand public de Codex?
Oui, c'est vraiment une question de créativité. Donc si vous avez un problème et vous êtes capable de décrire l'objectif, par exemple planifier des vacances, et ça peut être compliqué, ça peut être voilà, j'ai besoin de revoir ma famille à tel endroit, à tel moment, je ne sais pas comment prendre la voiture, ou j'ai envie de grimper le Mont Everest, aide-moi à planifier la route. Mais aussi, j'ai envie de trouver une école et j'ai ces contraintes spécifiques. Tout ça, c'est des choses qu'un agent peut résoudre pour vous de manière efficace. Beaucoup de gens utilisent au boulot pour faire des slides, des spreadsheets, des présentations, faire de l'analyse de données. Et on a tous des questions qu'on se pose au cours de la journée et on n'a pas nécessairement envie de le faire, ou c'est des choses où voilà, on se dit peut-être qu'on le fera demain, peut-être qu'on le fera la semaine prochaine. Et ben maintenant on est capable de juste le donner à un agent et c'est fait dans la minute ou c'est fait dans les 30 minutes.
Et donc Codex, vous le disiez, peut être utilisé par n'importe qui, même pour la version gratuite en fait, c'est ça?
On va
ou après, progressivement dans le futur.
Oui, progressivement on va amener ses capacités à un public de plus en plus large.
D'accord.
Au début, ce sera plus concentré pour des utilisateurs payants et les entreprises. Et puis, c'est vraiment une question aussi d'être responsable au niveau de tout ce qui est sécurité et d'essayer de rendre ces concepts les plus simples possibles pour que ce soit vraiment super simple à utiliser et pratique pour tout le monde.
Juste une question pour terminer, à la fois géopolitique et de souveraineté, parce que j'imagine que vous comprenez un peu tous les messages qu'il y a ici. Quand on revient à l'actualité récente qui s'est passée aux États-Unis, on a vu que votre principal concurrent Anthropic, en fait, avec son Mythos, avait été carrément interdit d'utilisation aux non-américains. D'accord ? Cette histoire-là, elle est arrivée à Mythos, mais elle pourrait très bien arriver à OpenAI, elle pourrait très bien arriver à Gemini, etc., etc. Quel est le point de vue, quel est votre sentiment là-dessus? Est-ce qu'on va dans la bonne direction avec ce type de décision?
Alors, je ne peux pas parler spécifiquement du point de vue anthropique. Ils ont leur propre point de vue et leur façon de travailler sur ce problème. Nous, notre mission, c'est vraiment de rendre accessibles des modèles de pointe pour un public le plus large possible. On n'a pas pour le moment reçu de notification du gouvernement. On travaille de manière très très proche avec tous les gouvernements du monde pour faire en sorte qu'on puisse rendre nos modèles accessibles. Et pour le moment, on n'a pas de raison de penser qu'il y aurait un changement.
Mais vous êtes une société américaine qui dépend donc du gouvernement américain. C'est-à-dire
bien
que demain,
sûr,
on
bien
pourrait.
Sûr. Et on dépend d'autres gouvernements aussi, oui.
D'accord. Mais est-ce que ça ne va pas à l'encontre de votre volonté justement de rendre plus fluide l'utilisation de tous vos services au niveau de l'humanité finalement. C'est un peu contradictoire.
On a aussi cette opportunité de développer cette technologie avec des investissements incroyables, du talent incroyable à San Francisco, aux États-Unis, et jusqu'à présent, on est capable de rendre cette technologie et ces modèles accessibles au monde. ChatGPT, presque 1 milliard d'utilisateurs, c'est quand même incroyable de pouvoir faire ça. Et pour le moment, c'est juste notre plan, c'est de continuer et d'améliorer ce service et de faire en sorte que ça reste universellement disponible.
Merci beaucoup Thibaut. Est-ce que vous vous intéressez à l'aviation? Parce que dans un instant, je vais avoir l'un des patrons de l'IA chez Airbus.
Pourrais m'y intéresser.
Et ben, peut-être que demain, vous prendrez un avion totalement autonome. Et on va en parler tout de suite avec mon invité. Merci d'être passé par le plateau Tech & Co.
Merci.
Vous êtes le responsable produit et plateforme chez OpenAI. Merci beaucoup.
Merci.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.
Voilà, comme promis, j'accueille sur le plateau de Tech & Co Fabrice Valentin. Bonsoir Fabrice.
Bonsoir.
Vice-président responsable de l'intelligence artificielle chez Airbus. L'idée pour vous, c'est quoi? C'est de rencontrer, de s'inspirer de ce que font certaines startups. Ça sert à quoi d'être ici pour Airbus?
C'est aussi montrer une image de l'entreprise qui est peut-être pas évidente pour le grand public ou pour les startups et l'écosystème autour de nous.
On est aussi samedi, c'est tout ouvert pour le grand public c'est ça qui est intéressant. Votre métier chez Airbus, vice-président responsable de l'intelligence artificielle, waouh! Comment se découpe votre quotidien en fait? Quelles sont vos différentes tâches liées à l'intelligence artificielle?
Aujourd'hui, le focus principal dans ce métier, c'est vraiment s'assurer qu'on arrive à déployer une technologie de façon responsable pour tous nos collègues, pour arriver à demain transformer les processus de l'entreprise. Mais dès aujourd'hui, l'employer pour des gains de productivité, des gains de qualité à travers tous les secteurs du métier de l'entreprise.
L'intelligence artificielle est un game changer dans une boîte comme Airbus?
Oui, il est en train de le devenir. Et on s'était vu il y a 2 ans.
Oui,
j'aurais dit, il le sera un jour. Je pense que 2 ans plus tard, on peut dire qu'il est vraiment en train de le devenir. On voit les métiers se saisir de la technologie pour repenser comment ils font leurs activités. On pourra en parler.
Bien sûr, avec plaisir.
Et je pense que le déclic qu'on voit dans la société est aussi en train de se produire dans les grandes entreprises comme Airbus.
Au quotidien, comment voyez-vous arriver l'intelligence artificielle? Donnez-nous quelques exemples.
Il y a plusieurs couches finalement. On a une couche assez standard, assez facile à appréhender, qui est l'IA de tous les jours, celle qu'on amène avec des outils intégrés dans nos moyens de production quotidiens, dans la gestion d'emails, de documents, de génération de textes. Bon.
Parce que des documents techniques chez Airbus, il doit y en avoir quand même quelques-uns.
Il y en a quelques-uns et je dirais que c'est peut-être là que ça devient intéressant. C'est quand les documents deviennent très techniques, très complexes, et que finalement l'IA un peu généraliste qu'on trouve sur internet le soir à la maison ne fonctionne plus si bien. Et c'est là où le véritable challenge commence, arriver à employer cette technologie sur nos données bien spécifiques.
Et donc vous avez une IA spécifique que vous avez développée, comment faites-vous?
Alors on ne développe pas nos propres IA, là on parle beaucoup de frontier model, IA générative bien sûr, mais
bien sûr,
on ne développe pas ce genre de modèle, on développe ce qu'il faut autour de ces modèles pour s'assurer qu'on puisse les déployer avec tous les niveaux de sécurité qu'on souhaite.
D'accord.
D'un point de vue technique, d'un point de vue éthique. Mais ensuite, il y a un très gros travail autour du traitement de la donnée, la donnée en amont, et le traitement ou l'adaptation des modèles pour qu'ils fonctionnent bien avec nos données. On le fait nous-mêmes, on le fait avec des partenaires américains ou des partenaires comme Mistral. On vient d'annoncer un partenariat récemment.
Alors justement, partenaire américain, vous bossez avec qui?
On travaille avec Google, on travaille aussi avec Palantir. Bon, sur les pure players de l'IA, je dirais que notre partenaire, c'est vraiment Google aujourd'hui.
Et Mistral, plutôt bonne nouvelle.
Et sur les partenaires européens, souverains, notre partenaire, c'est Mistral. On a annoncé ça en effet il y a quelques semaines.
Et chaque IA a un rôle spécifique? Comment ça se passe? Typiquement, Mistral, vous avez signé avec eux, pourquoi?
Alors, Mistral, on a signé avec eux clairement pour ouvrir la porte de l'IA dans des contextes souverains. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut vouloir dire des cas d'usage très spécifiques dans la défense, dans le militaire, avec de la donnée très sensible. Mais ça peut aussi vouloir dire des cas d'usage dans le civil, sur de la donnée avec une propriété intellectuelle très stratégique, où on veut s'assurer un contrôle complet à la fois des modèles, de l'endroit où la donnée sont stockées et comment ils sont utilisés. Demain, ça ouvre aussi la porte à aller discuter avec des autorités de certification européennes, par exemple, avec un partenaire local qui nous permet certainement d'appréhender certaines problématiques qu'on n'apprendrait pas avec d'autres partenaires.
Quelle est, à votre avis, l'efficacité la plus spectaculaire de l'IA que vous ayez vue aujourd'hui chez Airbus? Quel est le truc qui vous a fait faire « Waouh, c'est incroyable, je suis impressionné ».
Alors, je pense que comme partout, tout ce qui a trait au codage informatique, ce qu'on a vu ces derniers mois est vraiment impressionnant. Les capacités, quel que soit le fournisseur d'ailleurs, mais les capacités de ces modèles sur le développement software, c'est vraiment impressionnant.
On en parlait juste avant vous avec l'un des porte-parole de OpenAI, avec Codex.
Ouais, j'ai entendu, c'est bon. Codex est un exemple. Ouais, bien sûr. Chez les autres acteurs.
La Claude, etc.
Exactement. Par contre, c'est peut-être pas le plus impressionnant dans le contexte Airbus. Notre métier, on fait beaucoup de software, de plus en plus de digital. Notre métier principal, c'est pas forcément du digital. Mais c'est essayer de voir, commencer à voir nos collègues qui emploient cette technologie dans des métiers plus traditionnels et qui trouvent des vrais gains de productivité. Par exemple, aujourd'hui, sur la génération de manuels techniques qu'on fournit à nos compagnies aériennes, oui. On a réussi, on a commencé déjà il y a un an avec Mistral, et rapidement, on a réussi à démontrer qu'il y avait un vrai gain de temps, que ça nous permettait de repenser le métier. Et on commence à engager des efforts pour repenser entièrement le métier, essayer d'arriver à des gains de productivité beaucoup plus grands qu'uniquement un déploiement, je dirais, un peu local ou générique de la technologie.
Sans parler de destruction d'emplois, est-ce qu'il y a des emplois, ou en tout cas des tâches humaines qui vont disparaître chez Airbus et remplacées par d'autres, à votre avis?
Alors, c'est une bonne façon de poser la question, parce que finalement, je pense que déjà des métiers entièrement remplacés par l'IA, ça reste aujourd'hui un petit peu du fantasme ou de la peur, suivant comment on le considère. Par contre, des éléments de processus, donc des tâches entières qui sont peut-être une grosse partie du temps de travail d'un être humain, c'est tout à fait réaliste et on le voit déjà dans certaines activités. L'IA permet de l'automatiser, donc de remplacer l'humain sur cette phase. Par contre, ce n'est pas un remplacement, c'est plus une augmentation de l'employé qui du coup dégage du temps pour des tâches plus pertinentes, pour des tâches plus stratégiques si c'est un analyste, pour des tâches peut-être d'architecte si c'est un designer, des tâches à plus grande valeur ajoutée.
Voilà, donc les tâches à faible valeur ajoutée vont être gérées par l'IA sous le fait d'être supervisé par un humain, c'est ça l'idée. Ouais.
On parle tout le temps en bon français de human in the loop, garder l'humain dans la boucle. Je rigole un peu quand je dis ça, c'est absolument essentiel et c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air, parce que c'est pas uniquement se dire j'ai un humain qui valide à la fin un certain processus ou une certaine création faite par une IA. C'est comment penser l'être humain dans un processus complexe, quels sont les garde-fous où il faut qu'un être humain branche son cerveau finalement, soit vraiment à regarder des résultats, les qualifier, et quelles sont les phases des processus qu'on peut automatiser avec la technologie.
On rentre dans le cockpit. Allez, est-ce que l'IA aujourd'hui est en train de changer aussi la manière dont on pilote un avion, d'un commandant de bord ou un copilote? Est-ce que ça change des choses?
Alors je dirais qu'aujourd'hui l'IA change vraiment notre façon de voir les moyens de designer, produire, construire, supporter les avions. Elle ne change pas encore la façon d'opérer les machines. On voit l'IA comme un véritable assistant au pilote dans le contexte du pilotage à terme. Donc aujourd'hui, ce sont des projets qu'on mène qui sont à l'état de recherche. Si vous êtes intéressé, vous pouvez monter sur notre stand, voir quelques démonstrateurs d'un système pour aider les pilotes à poser les avions quand d'autres capteurs pourraient être défaillants ou ne fonctionneraient pas pour des questions spécifiques. On a une démonstration aussi d'automates pour essayer d'optimiser le taxiing de l'avion au sol. Donc je pense qu'il faut plutôt voir ça comme un assistant supplémentaire, un moyen d'information, de prise de décision supplémentaire qui permet de baisser la charge cognitive sur les pilotes ou sur le personnel à bord de nos produits.
On parle beaucoup de véhicules autonomes, etc. Mais finalement, c'est un sujet dont vous vous êtes emparé la praticité depuis de très nombreuses années, en fait. Combien de pourcentage de vols aujourd'hui est fait en autonomie sur un avion? C'est énorme, non?
Alors, je n'ai pas le pourcentage en tête, mais vous avez raison, c'est une pratique qu'on emploie depuis longtemps, avec des systèmes qui ont été qualifiés de façon très, très déterministe, bien dans sûr. Des enveloppes de vol très, très spécifiques. La question autour de l'IA, c'est bien sûr la même question que quand on l'emploie dans nos processus, c'est cet aspect finalement probabiliste boîte noire, qui est la grande question au niveau de la certification. Comment s'assurer qu'on crée la transparence, l'explicabilité de ce genre de modèle pour arriver au même niveau de sécurité? Et voire même, notre optique, c'est plutôt de le penser à l'inverse. qu'est-ce qu'on peut faire grâce à l'IA pour augmenter le niveau de sécurité d'exploitation des appareils.
Ouais, c'est pas le fait de se dire on n'aura pas besoin de pilote finalement, c'est pas ça la question. C'est comment on peut améliorer encore l'un des moyens de transport les plus sûrs au monde. C'est
exactement,
ça l'idée.
C'est exactement
vous
ça.
Vous pensez que l'IA peut aller encore plus loin là ?
Je ne sais pas si on peut définir de limite à où l'IA ira. Par contre, de mon vivant, de ce que je vois aujourd'hui, je pense que c'est très réaliste de s'imaginer ça comme un système qui permet d'améliorer la safety à terme dans nos avions. Avoir des avions.
Et corriger parfois les erreurs humaines aussi.
Les corriger ou les anticiper.
Les
ou
anticiper,
les contrebalancer,
bien évidemment.
Ça peut être ce genre d'approche. On le voit dans l'automobile, l'évolution ces dernières années. On voit que c'est quand même loin d'être évident aussi dans ce domaine. Donc je pense qu'il faut garder la tête froide. C'est une technologie très prometteuse. Les étapes pour la déployer de façon opérationnelle et certifiable dans nos contextes, elles sont encore loin.
Et pour les passagers, moi qui suis, non pas dans le cockpit, mais installé comme ça dans l'avion, l'IA, ça change quelque chose dans la conception des avions pour le confort, pour les matériaux, des choses comme ça ?
Alors c'est une bonne question parce qu'on travaille aujourd'hui très activement sur la question, notamment depuis qu'on a signé le partenariat avec Mistral, mais c'est quelque chose qu'on a commencé il y a de nombreuses années aussi. C'est penser comment pouvoir employer l'IA dans les phases amont de design, par exemple, de l'avion. Parce qu'on peut explorer beaucoup plus rapidement, plus d'espace, ce qui nous permet d'obtenir des designs de meilleure qualité, ce qui nous permet d'accélérer des phases aussi de pré-design et qui sont pas incompatibles avec nos processus de certification actuels. Et c'est ça qui est peut-être la beauté dans l'approche, c'est de se dire on va explorer plus, donc on va obtenir des produits de meilleure qualité, on va pouvoir rester compatible avec le reste du système actuel. Donc on voit un chemin de transition vers nos façons de faire et des façons futures. Ce qui est essentiel, parce que la clé c'est l'adoption et le déploiement.
Très bien, ben merci beaucoup Fabrice pour toutes ces précisions. Vous êtes le vice-président responsable de l'intelligence artificielle chez Airbus. Merci d'être passé nous voir. Vous êtes juste au-dessus, tiens, si vous passez samedi à Vivatech, donc vous êtes au deuxième étage, c'est ça ?
Troisième étage.
Troisième étage, voilà. Pour avoir des petites démos, etc., etc.
Exactement. Les collègues se font un plaisir.
Voilà, puisque samedi, rappelons-le, Vivatech est ouvert au grand public. Et ça, c'est plutôt une très bonne initiative. Vous restez avec nous. Tech & Co, la quotidienne, on revient avec juste après cette petite pause. On va s'intéresser à la santé avec le vice-président exécutif et directeur des digital de Sanofi, qui sera avec nous. Et puis, juste après, on s'intéressera à l'une de nos pépites française du cloud, Octave Clava, le fondateur et PDG d'OVH Cloud, sera avec nous sur ce plateau. Merci d'être là depuis Vivatech. À tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.
Voilà le retour de Tech & Co, la quotidienne, ici même à Vivatech pour les 10 ans de ce grand salon dédié à l'innovation, ici à Paris, porte de Versailles. On va maintenant s'intéresser à une boîte incroyable qui s'appelle Sanofi, qui est l'un des plus grands groupes pharmaceutiques mondiaux, qui est français, spécialisé dans les médicaments, les vaccins, les traitements innovants, avec un enjeu aujourd'hui, eh bien, embrasser toute cette innovation, toute cette technologie avec l'IA qui va avoir forcément un impact, notamment sur la recherche, qui est le cœur de métier de Sanofi. Emmanuel Frenhard est avec nous. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes vice-président exécutif et directeur digital chez Sanofi. Vous avez été chez Disney avant, tiens, c'est amusant. Vous avez été dans le streaming aussi.
C'est ça, oui.
Et voilà, maintenant vous êtes...
Dans la santé.
Voilà, dans la santé, avec un gros sujet. Je le disais, votre métier, c'est un métier passionnant et qui doit toucher à énormément de sujets, non ? J'en parlais il y a un instant. Quel est un peu votre profil chez Sanofi et qu'est-ce que vous faites au quotidien ?
Alors, pour connecter mon passé avec mon présent, ça a toujours été d'améliorer le quotidien de la vie des gens. Que ce soit avec le divertissement ou maintenant, plus sérieusement, avec la santé, c'est ça, c'est le fil conducteur. Un métier passionnant, une industrie passionnante, un métier compliqué, parce que ça prend 10 à 12 ans pour créer un nouveau médicament, et il y a encore 90% d'échecs sur les médicaments.
Et donc ça coûte des fortunes à chaque fois, bien sûr.
Et c'est pas qu'une fortune, c'est qu'il y a des patients qui attendent avec un certain espoir et que l'échec touche plus.
Parfois on douche ces espoirs, bien évidemment.
Exactement. Il y a 20 000 maladies rares qui sont connues, qui n'ont pas de traitement.
Ouais. Et sans parler des maladies rares, il y a des maladies malheureusement qui sont très populaires et qu'on arrive mal ou pas à soigner, en fait.
Exactement. Donc c'est là où je pense que la technologie, l'IA, peut aider. Elle peut aider par plusieurs canaux. Il y a un des canaux principaux pour nous, c'est trouver les bonnes cibles. Les cibles, c'est les gènes, les molécules du corps que l'on doit cibler, qui ont peut-être un dérèglement ou que l'on doit corriger, mais sans affecter le reste de la biologie, parce que c'est
oui.
Le corps humain est quand même une machine très complexe.
Très chimique, avec des interactions dont on ne soupçonne pas l'existence.
Exactement.
En fait, c'est ça.
Donc avec l'IA, on arrive à améliorer 20-30% la précision des cibles. Ça, c'est énorme.
Et rapidement ou pas?
Parce oui, c'est assez ça. Rapide. On va avoir des jeux de cibles et c'est assez rapide. Ce qui est important dans notre industrie, c'est pouvoir mettre de côté ce qui ne va pas fonctionner le plus tôt possible.
Oui, pour passer à autre chose.
Pour passer à autre chose. Et pour simuler le plus tôt possible ce que ça pourrait avoir. Donc on stimule sur les organes, on commence à vouloir simuler sur des jumeaux numériques. On en est encore assez loin du jumeau biologique. Mais c'est là où, avec des entreprises comme Hawking, par exemple, une start-up française,
oui.
On travaille sur des modèles pour vraiment affiner ce que ça pourrait être le résultat d'une molécule sur un humain.
L'idée, c'est quoi? C'est de tester virtuellement les effets d'une molécule sur un organisme virtuel, donc un jumeau numérique, alors peut-être pas d'un organe, mais d'un ensemble de molécules ou de cellules, pour voir ce qui se passe. Si c'est pas bon, hop, on passe à autre chose, on part dans une autre direction. Si c'est bon, on creuse.
Exactement. Je pense qu'avec l'IA, on rentre dans un jeu où on peut avoir plus de volume. Avant, de trouver une molécule pour une cible, ça prenait beaucoup de temps. Maintenant, on peut en trouver beaucoup plus, des centaines peut-être dans une journée. Mais un humain ne peut pas gérer 100 permutations. Donc là, l'IA nous permet de faire des simulations de toxicité, d'efficacité, de stabilité, et ensuite de passer sur même simuler un essai clinique. Parce que la phase la plus chronophage de notre industrie, c'est la phase de l'essai clinique. Et donc on travaille avec une start-up qui s'appelle Quant Health, qui nous permet de simuler une phase 1, une phase 2, une phase 3 d'un essai clinique pour mieux l'affiner, pour avoir plus de certitude lorsqu'on va le faire, que ça va être un succès.
L'idée, c'est de raccourcir les délais de, on va dire, de recherche pour créer une molécule, un médicament.
Exactement. Alors, j'ai donné l'ambition à mes équipes, et c'est peut-être un peu exagéré de dire, et si on pouvait diminuer de moitié le temps que ça prend?
Aujourd'hui, c'est, vous disiez, entre
10 à 12 ans.
Voilà.
Et on a des exemples concrets sur notre stand où on gagne un an, quelques mois sur des process spécifiques de cette découverte, de cette ouverture. Donc, quand on élimine un an, c'est pas rien.
Mais Emmanuel, en plus, on en est qu'au début de cette histoire-là. C'est-à-dire que...
On n'est qu'au début.
En fait, les espoirs sont immenses.
C'est très prometteur. Et je pense que c'est prometteur, justement, on parlait des maladies rares, pour les patients qui ont vraiment peu d'opportunités dans les maladies rares. Parce que je pense que l'IA va nous permettre d'avoir beaucoup plus de jeux de molécules, les tester plus vite, les simuler plus vite, et se dire qu'il y en a qui, potentiellement, iront sur le marché grâce à des simulations. C'est peut-être pas tout de suite, mais à terme, sur des jumeaux numériques de patients.
On a beaucoup parlé du vaccin anti-Covid donc en 2020, dont la recherche et l'aboutissement avaient été accélérés par la tech.
Bien sûr.
Est-ce que vous avez déjà sorti des molécules qui ont été accélérées justement par vos travaux et en tout cas votre manière de rechercher aujourd'hui des molécules?
Alors, sur le marché, commercialement, aujourd'hui, on n'en a pas. Mais il y en a qui sont dans le processus.
Ils sont dans le pipe.
Qui sont dans le pipe, exactement. Qui sont en train de passer par ces étapes. Et on essaye de courir au plus vite possible pour les accélérer encore plus. Donc on a des investissements dans le digital et dans l'IA maintenant, précisément, pour accélérer ces molécules qui ont été accompagnées par de l'IA. J'aime bien dire qu'on a quand même des humains, des chercheurs qui amènent leurs intuitions, leur compréhension scientifique de la maladie. Et l'IA leur permet d'accélérer et d'augmenter ce qu'ils sont capables de faire.
Donc l'idée demain, grâce à l'IA, c'est de réduire le temps pour développer une molécule.
Exactement.
Une thérapie, en fait, c'est ça hein, l'idée. Et c'est quoi aussi? Est-ce qu'on pourrait éradiquer certaines maladies, à votre avis, grâce à l'accélération de l'IA?
Je pense que le vaccin est un exemple parfait de maladies qui sont éradiquées par la prévention. Je pense que de plus en plus, il y aura des traitements qui vont corriger et qui vont pas juste être palliatifs, mais correcteurs, et donc potentiellement changer la trajectoire d'un. Bon, on parle la médecine génétique a cette vocation,
bien sûr,
de corriger dans la permanence quelque chose. Donc oui, l'IA va contribuer à tout ça.
Et notamment dans les cancers, je crois qu'aujourd'hui, grâce à l'IA, on peut arriver à avoir une personnalisation d'un traitement qui sera bien beaucoup plus efficace. Voilà, qui serait un sniper en fait sur des tumeurs bien spécifiques, alors qu'avant ben, on avait un gros fusil un peu qui partait dans tous les sens et qui faisait du mal en fait à énormément de cellules qui n'avaient rien demandé.
C'est
quoi.
Un très bon point. L'oncologie est plus avancée encore et c'est vrai.
Et vous travaillez sur ce sujet chez
On travaille sur l'oncologie bien entendu. On travaille sur la médecine génétique qui là doit être personnalisée parce que j'ai pas forcément envie de recevoir votre vaccin génétique qui vous est dédié. Donc oui, de plus en plus on va avoir cette précision, cette médecine de précision, de spécialisation à l'individu.
Alors là on parle de la, on va dire, de l'aspect spectaculaire et de, du bénéfice que vous allez pouvoir nous apporter dans quelques années, qui visiblement va s'accélérer. Mais alors, pour les collaborateurs en fait, de Sanofi, est-ce que l'IA infuse un peu partout? Alors, ou est-ce que vous ne voulez pas parce que,
Non, au contraire, les collaborateurs de Sanofi sont absolument exceptionnels. On a développé une IA en interne.
Ben, quand vous allez venir lundi au, boulot, au bureau, ils vont être contents.
On a développé une IA en interne qu'on appelle Concierge, qui, comme son nom l'indique, est un concierge pour tous les collaborateurs. Il y a 75 000 personnes chez Sanofi, il y a 70 000 utilisateurs de Concierge.
Waouh !
Donc les collaborateurs, vraiment, de Sanofi, sont pour moi l'exemple même de gens qui s'approprient l'IA, qui essayent, qui n'ont pas cette crainte que ça peut faire, et qui vraiment nous force à innover encore plus.
Concierge, c'est quoi ?
Alors Concierge, c'est un peu votre réponse à tout. Dans l'entreprise. Ça comprend les politiques de Sanofi, ça comprend ça sait qui vous êtes dans Sanofi, où vous travaillez, quelle géographie. Et de plus en plus, Concierge fait des activités. Ça répond à des problématiques informatiques. Ça résout les tickets informatiques. On va commencer à faire toutes les commandes dans Concierge. Donc c'est vraiment une IA. Comme son nom l'indique, le concierge que l'on a connu dans un hôtel, peut-être une fois dans notre vie, c'est la même chose, mais pour tout ce qui est l'environnement Sanofi.
Et ça, vous avez fait appel à un LLM particulier?
Alors, on a plusieurs LLM derrière, bien entendu, parce qu'on ne va pas développer d'LLM. Et donc, si vous voulez, l'expérience utilisateur, elle est développée en interne. Et derrière, on fait appel à Anthropic, plusieurs versions de Claude, pour basculer sur des Haiku, Sonnet et Opus quand il faut. Mais oui, derrière, un LLM. Mais surtout, tout ce qui est intéressant, c'est ce qu'on a mis autour de Concierge. C'est connecté à des systèmes de Sanofi. Ça comprend la hiérarchie de Sanofi. Ça comprend les rôles et responsabilités. Ça a un peu d'humour également, parce qu'on est, on travaille sur des sujets sérieux, on ne se prend pas très au sérieux.
Et en tant que grand groupe pharmaceutique français, j'imagine que, alors vous l'avez évoqué un petit peu, mais la souveraineté est un sujet capital. L'idée, c'est de trouver un maximum de partenariats technologiques avec des entreprises françaises, c'est ça?
On le fait avec des entreprises du monde entier. Bien entendu, les entreprises françaises également. On veut appuyer l'écosystème français. On est fiers de notre écosystème français. On est fiers d'être une start-up de 53 ans, nous-mêmes. Donc, on se considère comme eux. Donc, des entreprises comme Okin, Akemia, avec qui on travaille vraiment constamment. Des entreprises qui sont des belles entreprises françaises dans la découverte de molécules.
Est-ce que vous travaillez avec OVH Cloud? Dites-moi oui, s'il vous plaît.
Pardon ?
Est-ce que vous travaillez avec OVH Cloud ?
On ne travaille pas encore avec OVH Cloud.
Bon, il va falloir que je vous présente Octave Clabat, qui est mon prochain invité, ouais. Qui est quand même un patron emblématique de la tech française qui est avec nous.
On est d'accord.
Et peut-être que vous pourrez faire affaire. En tous les cas, merci beaucoup, Emmanuel Frénard. Vous êtes vice-président exécutif et directeur digital de Sanofi. Et tout de suite...
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.
Voilà, Tech & Co, la quotidienne, jour 2, ici à Vivatech, pour les 10 ans de ce grand salon de la tech qui est une véritable réussite. On sera là demain, non pas demain, enfin demain pour de quoi je me mêle, mais on sera aussi là lundi, dès 19h30, dans Tech & Co sur BFM Business, avec encore une fois une émission exceptionnelle. Invité exceptionnel maintenant sur notre plateau, j'accueille Octave Clabat. Bonsoir Octave.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous.
Très heureux.
Parfait, vous êtes le fondateur et PDG d'OVH Cloud. Vous êtes l'un des grands bâtisseurs de la tech française. C'est vrai, vous avez créé OVH à la fin des années 90. Certains disent la légende que c'était dans un... Vous dormiez dans les couloirs de vos serveurs à l'époque. C'est vrai ça ou pas?
Ça m'est arrivé.
Ça vous est arrivé
dans les salles blanches avec beaucoup de bruit, mais oui.
C'est incroyable quand même, la réussite. Vous êtes vraiment l'incarnation d'une... belle réussite technologique française.
Bah merci, c'est beaucoup de travail, c'est aussi les équipes. On a aussi une présence européenne, on a pas mal des produits, pas mal des clients, donc c'est un succès commun.
Hein. OVH Cloud qui aujourd'hui, évidemment, défend le cloud, bien évidemment, l'IA aussi, la souveraineté. Première question, parce que j'aimerais que vous réagissiez à chaud à ce qui s'est passé il y a quelques jours à peine aux États-Unis. Anthropic sort la dernière version de Mythos qui a été édulcorée, qui s'appelle Fable 5. Cette intelligence artificielle a été bloquée par le gouvernement pour les non-américains, c'est-à-dire que toutes les personnes étrangères n'ont plus accès à cette IA. Quelle est votre réaction sur ce qui s'est passé?
En fait, c'est que quelque part, on a les exemples concrets de tous les pires scénarios qui peuvent nous arriver en tant que les autres.
On n'aurait jamais imaginé ça il y a ne serait-ce que 2 ans.
Et en fait, c'est tous les fantasmes que les gens ils appelaient encore des fantasmes ou des trucs qui vont jamais arriver. Bah, en fait, c'est en train d'arriver. Donc c'est quelque part, nous, notre réaction chez OVH, moi, j'ai imaginé ces typologies des scénarios il y a quelques 2 ans. Et c'est pour ça que je suis revenu aux commandes d'OVH, en fait, à partir de septembre, en tant que CEO, en plus d'être président ou chairman du board, pour justement bosser, travailler autour de l'intelligence artificielle. Parce que si nous, en interne, ne maîtrisons pas cette technologie-là, ben je pense qu'on n'a pas d'avenir dans une dizaine d'années.
Je vous demande de parler un petit peu plus près du micro, enfin, en tout cas, voilà, de votre bouche, pour qu'on puisse bien vous entendre dans le micro. Octave, aujourd'hui, quels sont les axes, on va dire, principaux d'OVH et dans quelle direction vous voulez aller?
On fait toujours du cloud, on peut en parler, mais l'actualité, elle est autour de l'IA.
Ça, c'est ce que vous faites depuis plus de 20 ans.
Plus de 20 ans, on continue à développer des produits, les présences mondiales, on va dans les différents verticaux. Voilà, donc ça évolue. Mais l'actualité récente, elle est autour de l'intelligence artificielle. Depuis le début d'année, on a commencé à faire des acquisitions, des technologies, pour pouvoir justement se renforcer dans l'IA. Donc on a fait l'acquisition de Sild, qui nous permet de faire des chiffrements. Et on a fait l'acquisition des Dragon LLM pour faire des trainings et fine-tuning des modèles. Là, on a fait l'acquisition de Gladia. Il va y avoir d'autres acquisitions qu'on va faire.
Gladia, c'est la reconnaissance vocale. Hein,
c'est ça, hein. STT, donc speech-to-text. Mm-hmm. Et on va faire text-to-speech avec cette équipe-là qui est incroyable. Et donc, quelque part, on cherche à se renforcer dans l'IA, mais pas juste en étant utilisateur de l'IA. On veut être créateur de l'IA. On veut entraîner des modèles from scratch. On veut pouvoir les fine-tuner, on veut pouvoir les spécialiser d'abord dans les métiers qui nous concernent. Alors vous allez dire, c'est quoi le métier qui nous concerne? Je ne parle pas des data de nos clients, ça on n'utilisera pas, mais on ménage des infrastructures mondiales. On a 45 data centers, on a plus de 500 000 serveurs physiques, on a des millions de machines virtuelles. Bah, tout ça, en fait, il y a besoin de développer du code. Il y a besoin de soutenir en fait ça en activité. Il y a besoin de le défendre. Il faut mettre des sécurités. Donc tous ces éléments-là en fait qui font partie de notre métier, ben, on va l'entraîner dans les modèles pour pouvoir les proposer d'abord en interne pour qu'on puisse gagner en performance et gagner en sécurité, mais aussi proposer à nos clients. C'est ça l'axe des développements qu'on est actuellement en train de faire.
Donc vous voulez devenir un acteur européen et concurrent de Microsoft, par exemple.
Microsoft, mais aussi...
OpenAI?
Oui.
Google? Puis,
aussi. En fait, c'est que quelque part, vous avez la deuxième vague des investissements dans l'IA. La première vague qui était il y a 3, 4, 5 ans, qui était l'OpenAI, qui était Anthropic, X, Mistral, à son point. Ben, en fait, c'est les modèles fondamentaux. Depuis 4 ans, la barrière à l'entrée pour entraîner des modèles from scratch a énormément diminué. Vous avez beaucoup plus des équipes qui savent le faire. Vous avez énormément de papiers sur les algorithmes. Vous savez qu'avec moins de données, on peut faire des LLM parce que c'est du data de synthétique. Mm-hmm. Et l'entrée au niveau du CAPEX, au niveau des GPU, a diminué d'à peu près 10 fois. Et donc, vous pouvez faire ce qu'on faisait il y a encore 3-4 ans avec 10 fois moins de moyens. Et donc, si vous avez les mêmes moyens qu'il y a 10 ans, vous pouvez faire des modèles nettement plus intelligents. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire, le modèle d'Anthropic, ils sont nettement plus intelligents que ce qu'on voyait encore il y a quelques années. Parce qu'en fait, le gain de performance au niveau des GPU, l'état de l'art a beaucoup évolué et permet d'aller beaucoup plus loin. C'est pour ça qu'il y a cette deuxième vague des investissements dans l'intelligence artificielle. Microsoft, il l'a fait l'année passée. AWS, ils sont en train de aussi le faire. Nous, on est en train de le faire. Parce que pour nous, la technologie, si on ne la maîtrise pas, on ne pourra pas survivre. On a besoin de coder illimité. Imaginez, en fait, vous avez une entreprise de plusieurs milliers de personnes qui utilisent l'IA au quotidien. Et ce qui vient d'arriver un week-end, bah vous arrive. C'est-à-dire, tout le monde au chômage technique.
Oui, parce que...
Vous ne survivez pas.
Un État...
Vous décide, ne survivez pas.
Voilà, une entreprise qui est originaire d'un État, cet État décide de couper les vannes.
Vous ne survivez pas à un événement de ce style-là, parce que vous avez gagné en performance, ouais. Vous avez finalement peut-être pas recruté autant qu'il aurait fallu, si c'était tout en humain, bah, vous ne survivez pas à un événement de ce style-là. Donc c'est pour ça, Nous, on est devenu tellement évident que pour nous, il nous faut ça, mais aussi pour nos clients. Parce que nos clients, ils sont dans les mêmes situations. On est en train de travailler sur la souveraineté, on est en train de travailler sur la défense, on est en train de travailler sur les choses qui sont extrêmement importantes en termes des souverainetés, pas seulement du cloud, l'énergie, l'ensemble des activités. On doit pouvoir faire cette activité-là sur les plusieurs années sans aucun problème, aucune problématique et dépendance à des acteurs externes.
Oui, mais Octave, le problème, c'est que Microsoft, Google, OpenAI, Amazon, qu'on n'a pas cité depuis le début, sont excellents dans ce qu'ils font. Ils sont excellents, ils investissent des dizaines et des dizaines, voire des centaines de milliards. Est-ce que, franchement, on peut tenir la corde par rapport à ces acteurs américains ?
Regardez bien ce qui se passe au niveau des investissements. Ils appellent ça des R&D, mais ce n'est pas de la R&D. Regardez bien, en fait, dans le bilan.
Dans
le bilan financier, ça s'appelle R&D, mais ce n'est pas R&D, ce sont des CAPEX. Vous avez bien sûr une partie des R&D, c'est-à-dire, on va dire, on ne fait pas de revenus avec ça, mais une énorme partie est liée à la croissance. Donc,
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ils dépensent beaucoup d'argent pour grossir, c'est ça ?
Parce qu'ils ont des clients.
Ouais.
C'est-à-dire aujourd'hui, les investissements dans l'IA, on parle de la bulle. Est-ce qu'il va y avoir bulle ou pas ? Ça, je ne vais pas prédire. Il y aura probablement quelques entreprises qui ne vont pas survivre. Mais les CAPEX, qui sont les investissements qui sont nécessaires pour faire l'entraînement, ça c'est déjà fait en fait. Il y a le renouvellement qui est fait, mais c'est une faible partie des investissements. La vraie grosse partie des investissements qui est faite, c'est parce qu'en fait, il faut suivre la croissance. Parce qu'il y a derrière les utilisateurs, les clients qui souscrivent à des abonnements et qu'il faut les délivrer. Et donc, on mélange en fait à travers cette ligne-là qui s'appelle R&D que les gens ils sont prêts à investir des milliards sur en ne gagnant pas d'argent. C'est faux. Ils gagnent de l'argent. Ils gagnent de l'argent. Il y a des entreprises dans l'IA
qui... OpenAI, pas autant que prévu.
Oui, mais c'est en fait, il y a quelques entreprises qui sont encore à perte, etc. Mais les cloud providers, je suis désolé, hein, ils gagnent de l'argent.
Alors, OVH AI Workspace, en est où en fait ? Est-ce que c'est déjà opérationnel ? Expliquez-nous.
Donc, c'est vraiment une histoire très très marrante. On est en train de développer un OVH IA Workspace. C'est quoi ? C'est l'email, Drive, visioconférence, messaging, l'ensemble des outils collaboratifs. Vous allez dire ?
Un Office 365 à la mode OVH, on va dire. C'est ça ?
Nouvelle génération.
Non, mais c'est pour que tout le monde comprenne, en fait.
Voilà.
C'est une suite de logiciels qu'on
c'est
a déjà.
Suite de logiciels. Vous allez dire, oui, mais il y a des open source, ça existe déjà. Oui, mais nous, on l'a fait avec la vision que j'ai exposée au Summit en novembre. C'est-à-dire que, pour moi, l'agentique, elle est au milieu, elle est connectée à l'humain, et derrière, vous avez des SaaS qui sont interconnectés avec de l'agentique. Et donc, vous dirigez à travers l'agentique l'IA, et c'est ça qu'on démontre. C'est-à-dire que, by the way, il y a un email. By the way, il y a messaging, etc. Mais ce qui est vraiment incroyable, c'est que vous avez un agent à gauche et vous pouvez fouiller dans vos emails, fouiller dans vos drives, fouiller dans une conversation que vous êtes en train d'avoir dans une visioconférence, d'avoir les sous-scripts en dessous, les transcripts en temps réel, les traductions en temps réel. Vous pouvez avoir un résumé d'une conversation lorsque vous arrivez dans une visio en retard. Vous avez plein d'usages. Et en fait, à travers ça, c'est un exemple de développement que nous sommes en train de faire sur la plateforme que nous avons développée en interne, qui s'appelle Pass IA, qui nous permet de développer ça. C'est comme du poupée russe.
Oui, oui.
Vous voyez la poupée qui est tout en haut, qui s'appelle Workspace. Et c'est un des exemples de développement que nous sommes en train de réaliser avec la plateforme qui est en dessous, qui s'appuie sur les tokens as a service, qui s'appelle sur Public Cloud, qui s'appuie sur les entraînements des modèles et qui s'appuie sur les GPU et les data centers.
Et quand est-ce que vous serez prêt alors ? Quand est-ce que vous proposez ça
on
à vos clients ?
On prévoit la bêta vers novembre, donc au Summit d'OVH, fin de novembre. Et je pense qu'on passera en production sur les services vers début 2027, janvier-février.
Et potentiellement, quels sont vos clients en fait ? Ça va être des clients européens qui veulent justement essayer de prendre du champ par rapport à ces acteurs américains. On le voit aujourd'hui, c'est dans l'actualité. Il y a une montée en puissance, même ici, à Vivatech de la souveraineté.
C'est incroyable les feedbacks qu'on a sur le stand. Et c'est pour ça qu'on avait fait le pari de le montrer. Parce qu'il n'y a pas une seule personne qui ne dit pas quand est-ce que je peux l'avoir.
Quand est-ce que je peux y aller ?
Parce qu'en fait, ça fait gagner en productivité énormément. Je ne parle pas en fait même de la souveraineté en fait. Et c'est là qu'il faut rejoindre le message en disant oui, les Américains sont bons, mais les Européens, ils peuvent faire des meilleurs produits. d'abord le produit. Et c'est ça qu'on est en train de démontrer, que c'est le produit, l'envie de l'utiliser, les fonctionnalités à l'intérieur, c'est ça qui est innovant. Et by the way, oui, on est souverain. C'est développé à Paris, c'est développé en France. Derrière, c'est hébergé dans nos data centers, c'est derrière le GPU, tout l'ensemble de la stack et les chenoux. Donc on maîtrise tout l'ensemble de ce que vous, vous utilisez au quotidien.
Sincèrement, est-ce que vous pensez pouvoir être au niveau de ce que font les Américains en termes de fluidité, d'expérience utilisateur, d'ergonomie, etc., etc.
Je pense que oui. Je pense que oui, parce que bizarrement, mais c'est vrai, l'IA va nous aider à accélérer. Je ne parle pas des cloud code ou codex. C'est développer une IA qui nous permettra d'être autonome et de pouvoir développer des outils de qualité. C'est pour ça que maîtriser, elle est essentielle pour nous. Parce que derrière, lorsque vous maîtrisez une technologie qui vous permet de coder en fait à volonté autant de lignes que vous voulez sans aucune limite, vous pouvez tout réécrire. Le développement désormais des logiciels, il consiste beaucoup à réécrire plusieurs fois par mois le même logiciel vers une autre version dans laquelle vous ajoutez de nouvelles choses, de nouvelles fonctionnalités, mais du coup le design, l'architecture, vous la changez pour l'upgrader. Donc vous faites des transformations du code tout en développant de nouvelles fonctionnalités quasiment dans un cycle mensuel. Ça, il faut qu'on maîtrise, et ça, il faut qu'on donne en Europe. Ça, il faut qu'on donne ça dans les mains de nos clients. Il faut qu'on donne cette plateforme-là pour qu'eux puissent développer à leur tour des SaaS. Notre workspace, il est ouvert. C'est-à-dire que tous les SaaS de l'Europe, ils peuvent s'intégrer à l'intérieur. Vous avez l'agentique, vous avez un moteur de recherche à l'intérieur, vous avez du chiffrement. Vous pouvez chiffrer, et quand vous activez le chiffrement, tout ce qui se passe dans le cloud, bah, il passe sur votre poste de travail en local. C'est-à-dire que on vous installe automatiquement un LLM sur votre poste de travail si vous avez les GPU. Par exemple, sur les Mac, ça marche très bien. Et derrière, vous avez les moteurs de recherche qui s'activent en local et vous pouvez fonctionner dans un avion sans connexion Internet.
Vous avez déjà un business model pour tout ça. Est-ce que vous allez être agressif en termes de tarifs? L'idée, c'est quoi en fait?
Il y a des choses qu'on va faire montrer progressivement. Mais j'ai de bonnes réponses là-dessus. Et réinvitez-moi vers la fin de l'année, je vous montrerai un petit peu ce qu'on va faire.
Est-ce que le grand public, vous, moi, ça vous intéresse aussi, ou est-ce que priorité aux entreprises?
Vous posez bien les questions.
Que je me pose moi en tant qu'utilisateur. Avec tout ce que vous me dites, moi j'ai envie de m'éloigner un peu de ces acteurs américains.
Un petit peu par rapport à ce que je voudrais vous dire à la fin de l'année, c'est que oui, ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse beaucoup en fait de donner ces outils-là au maximum des utilisateurs, pas clients, utilisateurs en Europe, parce que c'est de cette manière-là. On acquiert la confiance des grands comptes, la confiance. Si vous savez gérer 100 millions d'utilisateurs,
c'est la meilleure vitrine en fait.
C'est les meilleures manières en fait de déboguer, de trouver des nouvelles fonctionnalités, de montrer que vous arrivez à faire du scale et derrière de chercher des gros clients que eux pour le coup ils sont prêts à payer.
Ce summit de novembre à mon avis, ça va être du costaud. Hein.
Oui, venez au summit, ça va être incroyable.
Bon, on aura l'occasion sans doute d'en reparler, Octave. Merci pour votre temps.
Merci beaucoup.
Octave Cabat, fondateur et PDG de VH Cloud, avec, vous l'avez compris, dans son escarcelle, pas mal de choses qui vont être annoncées dans quelques mois. Ce Tech & Co, la quotidienne, est terminé. Un grand merci de nous avoir suivis. Belle soirée. On sera là lundi, bien sûr, dès 19h30, pour un dernier Tech & Co depuis Vivatech. Et puis demain, pour De quoi je mêle, demain soir, sur BFM Business, bien sûr. Merci de nous suivre et à très vite.
Tech & Co, la quotidienne, sur BFM Business.